bien, je vous propose de commencer cette dernière étape de notre journée sur les conclusions. Alors, ce sont des conclusions extrêmement provisoires, partielles, dans la mesure où j'ai été avec quelques complices picorer dans certains ateliers, mais manifestement, il y a des tas de choses qui nous ont échappé. Donc, vous aurez de toute manière droit à recevoir des comptes rendus plus précis. J'essaie de retrouver Cathy pour qu'elle me dise si c'est bien exact. Ok, je ne m'avance pas outre mesure. Et ce sont également des conclusions, comme plusieurs interventions d'ailleurs aujourd'hui, qui sont personnelles. Et donc, dans une certaine mesure, je vous dis plus ou moins, enfin, un ressenti. Et on n'est pas évidemment dans le domaine ici de la des choses purement rationnelles. Bon, toutes ces précautions oratoires étant prises, alors, en principe, l'informatique fonctionne, voilà. J'ai donc commencé à parler un petit peu de ces fameuses références et lignes directrices, puisqu'elles ont été depuis le début notre ligne de conduite, et c'est quand même un des éléments importants, c'était le fil rouge. Je voudrais simplement insister sur le fait que, évidemment, nos ministres, dans quelques jours, vont signer une nouvelle version. Il y avait une version précédente, mais fondamentalement, tous ces outils sont la concrétisation, le caractère plus opérationnel d'une politique de l'espace européen d'enseignement supérieur. Il y a une certaine logique, c'est parce qu'on demande la possibilité de mobilité, de transparence, que la confiance que l'on doit alors avoir est mise en place par des systèmes d'assurance qualité, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, politiquement, qu'on l'accepte ou pas, je pense qu'il y a là un fondement important. Revenons à notre politique d'assurance qualité, c'est évidemment une des choses importantes et c'est certainement là, certainement pas une rupture, mais certainement un approfondissement des nouveaux ESG par rapport à l'ancienne version, et on l'a dit, c'est typiquement et c'est d'abord et avant tout la responsabilité des institutions. Responsabilité des institutions, alors j'ai pris ici une définition de Lucien Bollaert dans son manuel, c'est bien un outil à un certain moment de management ou de pilotage. C'est bien un outil qui va se fonder sur une vision stratégique. Et Freddy Coignot l'a dit, pas de stratégie, pas de véritable assurance qualité. Il y a une autre image, je pense aussi, qui vient de Freddy Coignol, que j'apprécie toujours beaucoup quand en interne j'essaie de convaincre. Vous imaginez un avion, tout le monde monte dans l'avion, on a fait le plein, pilote, copilote, mais on ne sait pas où on veut aller. Et c'est évidemment quelque chose un peu embêtant. Ce système d'assurance qualité va porter sur l'ensemble des processus que l'institution met en place, va générer un certain nombre d'indicateurs dont l'objectif est bien d'améliorer la qualité. Ce qui veut dire peut-être que si on dit que l'objectif est d'améliorer la qualité, on peut peut-être aussi faire parfois de l'assurance qualité, ou en tout cas certaines dérives d'assurance qualité, sans améliorer la qualité des formations. On peut, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi des usines à gaz, on collecte des tas d'indicateurs, on s'agite beaucoup, mais fondamentalement, pour l'apprenant, on voit relativement peu de valeur ajoutée. On a dit également qu'une des questions essentielles qui nous préoccupait était cet équilibre. Et l'idée est revenue dès le début, entre ces processus externes portés par l'EQS, qui finalement ne sont pas très importants. Ce qui nous importe, nous, en tant qu'agence, ou nous, en tant qu'établissement, parce que je peux aussi parler avec deux casquettes, ben c'est la dynamique interne mise en place par des systèmes de pilotage. Et je dirais que dans un monde idéal, notre processus interne devait vivre sa vie. Et de temps en temps, il y a une visite externe qui vient le conforter, l'analyser, l'améliorer. Mais ça ne devrait pas être plus que ça. Or, on a vu que c'était malheureusement pas toujours cette situation. Nous avons vu aussi que la qualité, c'est un processus négocié. Alors j'espère que la négociation se passe mieux que sur cette figure, mais ça veut dire qu'effectivement, les différentes parties prenantes de notre enseignement ont sans doute des visions des visions différentes entre la direction, un étudiant dont l'objectif est souvent la préoccupation et le pas de temps, la préoccupation, ça va être la durée de ses études, entre des employeurs, entre la société civile aussi, qui a des valeurs, qui va les exprimer. Toutes ces parties prenantes vont sans doute exprimer des notions un peu différentes de qualité. Et nous avons effectivement, et on nous a dit, arrêtez d'imaginer faire l'unanimité autour de cette définition, apprenez à gérer les tensions, qui dans un certain nombre de cas sont aussi des conflits de représentation, l'image qu'on en fait. On nous a dit aussi, et je pense que c'est important, que l'on doit trouver un équilibre entre une assurance qualité qui récolterait beaucoup d'informations, pousserait très loin le processus de diagnostic, mais dans une certaine mesure, et en tout cas au niveau de nos établissements, ce diagnostic est insuffisant, et nous souhaitons aussi entrer dans une amélioration des programmes, ça veut dire l'action. Mais on peut se complaire dans le diagnostic, et on peut se complaire parce que c'est un travail en soi d'accumuler des informations, d'accumuler des indicateurs. Je ne vais pas entrer dans le détail, la qualité est l'affaire de tous, mais tous n'ont pas la même responsabilité. Une direction, les coordonnateurs qualité, les enseignants, les parties prenantes. Alors il y a quelques mots-clés qui ont été dits ou ce matin ou dans les ateliers. Micro-réseau de mobilisation, l'idée séduisait beaucoup de personnes, à condition de ne pas épuiser ces micro-réseaux, parce que si on en a peu et qu'on leur confie beaucoup de tâches institutionnelles. Laisser la place aux initiatives aussi, je pense que ces initiatives, elles sont les bienvenues. J'ajouterai d'ailleurs, pour que des initiatives soient prises, que l'on peut être responsable d'une initiative, et c'est très bien, mais qu'on est responsable et jamais coupable. Sinon, vous n'aurez jamais d'initiative prise deux fois par des personnes. Donc, je crois que c'est un choix individuel, c'est un choix de groupe d'initier quelque chose de nouveau. Et puis on pilote, on copilote, on co-construit au fur et à mesure, et on regarde si les choses vont ou pas. Se former à la qualité, en tout cas pour les personnes dont la responsabilité institutionnelle et la coordination qualité paraît aussi indispensable. On a dit aussi tout à l'heure, un doyen, je ne suis pas formé, je crois que c'est vrai. Or, il y a des formations en gestion de ressources humaines, en problème de frein au changement, et je ne vois pas pourquoi, au niveau de l'enseignement supérieur, les personnes en charge de ces responsabilités auraient, de manière presque automatique, l'ensemble de ces compétences. J'ai des doutes, en tout cas, au moment où il faut les exercer. On sait que ces démarches qualité doivent être adaptées au contexte national. Et on a répété ce matin que la communauté française de Belgique, ce n'était pas la France, ce n'était pas la Suisse, et que même si nous sommes tous francophones, il y a des différences. Le contexte institutionnel devait être également pris en compte, notamment les choix stratégiques de l'établissement. Mais on nous a dit ce matin, est-ce que finalement tout ça ne va pas conduire à une forme d'uniformisation? Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense que ce n'est pas du tout automatique. On a parlé ce matin que certains, facilement, en tout cas, un des risques était de se forger des chaînes. Ceci en est une. Je pense qu'on doit faire preuve de créativité et que chaque établissement, il n'y a pas de raison. Et le système qualité n'a aucune raison d'être, au contraire, il doit être vraiment, je dirais, s'enraciner, agronome, s'enraciner dans la culture de l'entreprise, la culture de l'établissement, dans la culture et les valeurs de l'établissement. Et si on parvient à cet objectif, je crois qu'effectivement, on n'est pas dans l'uniformisation et qu'au contraire, on peut préserver la diversité. Venons-en à l'équesse, parce que dans cet équilibre, nous avons certainement aussi un jeu et une responsabilité. Quel est le rôle de l'agence? On a questionné déjà un certain nombre de coordinateurs qualité, on a questionné un certain nombre de responsables institutionnels, j'ai fait allusion à un sondage et il est clair que vous serez tenu informé de ces résultats. Certains nous disent, finalement, on ne vous voit qu'à travers les audits, on pourrait faire plus, pas audit, je m'excuse, évaluation. On devrait aussi vous voir ailleurs, et c'est peut-être l'aide, la formation, mais est-ce à nous de le faire? Nous sommes dans un nouveau paysage institutionnel, il y a aussi la RES, et là, il faudra bien entendu que chacun trouve des spécificités et les rôles qui lui sont propres. On a parlé des champs d'évaluation. C'est très clair que pour une agence, plusieurs choses sont possibles. Programmes institutionnels. Est-ce que les évaluations institutionnelles, est-ce pas un pas vers un ranking qui n'en porterait pas le nom? Quel est le coût? Quels sont les besoins? Comment voir s'exprimer ces besoins? Ce sont toutes des questions que nous nous posons. Je crois que la vocation et la responsabilité de l'agence est de coller aux attentes des institutions. Encore faut-il voir émerger des demandes légitimes et comment la méthodologie est ici importante. L'ARES, nouveau partenaire qui va aussi jouer, et enfin le politique, quand on parle de suivi et de l'impact des évaluations. Ce matin, je n'ai pas pensé dire une chose, c'est que les agences sont aussi évaluées sur l'impact de leur travail. Pas toujours simple à voir, mais ça fait partie des choses que nous devons essayer de voir. Et là, il est clair que le politique a une responsabilité d'arbitrage, de choix fondamentaux dans le domaine du suivi et dans le cadre légal qu'il va instaurer. La qualité interne d'un établissement, c'est toute une série de choses, on l'a rappelé, conception, approbation des programmes. Et là, on discute bien entendu actuellement beaucoup les référentiels des programmes. Un des ateliers a travaillé cette question. Je n'ai pas trouvé, en tout cas dans l'atelier où j'étais et dans le groupe où j'étais, une opposition, je dirais farouche, à des préoccupations professionnalisantes des formations. On trouvait assez normal, finalement, de se tourner vers les besoins sociétaux. Mais on ajoutait aussi, et je crois que c'est important, et particulièrement pour l'enseignement supérieur, qu'à côté des compétences qui sont strictement professionnelles, il y a un certain nombre de compétences indispensables, savoir-être, pensée critique, compétences transversales, qui, indépendamment de leur caractère utilitaire ou pas, doivent être conférées. Nous formons des citoyens de demain. Clair aussi que dans les institutions où les professionnels apportent ou contribuent à l'enseignement, leur input dans ce contexte-là est évidemment favorable. Apprentissage, enseignement, évaluation. Les étudiants sont encouragés à jouer un rôle actif. Ce rôle actif, c'est notamment, bon, ça fait bien sûr penser à des activités pédagogiques qui ne seraient pas uniquement transmissives, et nous savons que c'est évidemment quelque chose de plus compliqué. J'approche petit à petit aussi alors l'autre aspect, c'est que si on s'intéresse de plus en plus à l'étudiant, à l'apprentissage et moins à de l'enseignement, c'est plus le référentiel de compétences, c'est moins le programme. Encore faut-il, bien entendu, que l'on puisse mettre ça en œuvre et notamment une des modalités, la flexibilisation des parcours, où on sent quand même encore un malaise et un malaise réel. Quel est le bénéfice finalement de cette flexibilisation si elle est trop poussée? Est-ce qu'on ne va pas avoir des stratégies de contournement, forme de zapping, qui fait que certains cours, certains établissements se réfuient au profit d'autres établissements? On voit aussi dans certaines écoles une difficulté matérielle de mise en œuvre pratique et de validation des programmes dans des délais normaux, ou suffisamment rapides. Et on voit aussi d'ailleurs des problématiques de compréhension de jusqu'où va cette flexibilisation. Et c'est là qu'on trouve une contradiction, me semble-t-il, ou en tout cas quelque chose, une tension que nous allons aussi devoir gérer, flexibilisation d'un côté, mais d'autre part, on nous demande, à travers les référentiels de compétences, d'avoir une vision de plus en plus précise des profils de sortie de nos diplômés. Le personnel enseignant est évidemment, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut soutenir les compétences. Je vous montre ici une DIA que j'avais montrée à Nancy, la définition d'un bon professeur selon Charb. Mais au-delà de cet humour, je pense qu'effectivement la formation pédagogique, et on l'a dit ce matin, et en tout cas surtout si l'on veut des pratiques pédagogiques où l'étudiant est nettement plus actif, le cours ex cathedra reste la chose la plus simple à organiser. Je peux même, avec un peu d'expérience, commencer à faire des cours ex cathedra en pensant à autre chose. Par contre, quand je viens un coach, quand je veux animer, motiver des étudiants, les rendre actifs, c'est quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus consommateur d'innovation, de créativité, d'énergie. Mais on s'est dit aussi que ces compétences, ce n'est pas uniquement de la formation pour les formations. En fait, ce qu'on veut, c'est le développement professionnel d'une personne. Alors, il peut y avoir des cours, il peut y avoir des formations, mais on peut développer les compétences d'une personne à travers bien plus de choses, et notamment l'apprentissage dans l'action. Des équipes pédagogiques qui auraient un projet et qu'on mobilise autour d'un projet, autour de ce projet, ben, elles apprennent, elles construisent leurs propres compétences. La mobilité. Quand nos enseignants peuvent partir en mobilité quelques mois dans un établissement étranger, ben, il est très clair que, indépendamment de toute formation très, très organisée, il y a forcément un acquis extrêmement important. On a parlé aussi du cadre légal. Je dirais néanmoins que ça peut être utile, mais j'espère que, quand je vois parfois le rythme de nos législateurs, que nous agirons aussi avant d'avoir cette obligation légale. Gestion ressources humaines cohérentes avec ses objectifs. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il est très clair que dans... Si vous prenez l'université où les enseignants sont aussi des chercheurs, si vous voulez qu'ils se développent ou qu'ils consacrent une énergie suffisante dans l'enseignement avec une vision innovante de cet enseignement, ne faites pas uniquement des promotions sur la recherche, parce que les gens auront très vite compris dans quoi ils doivent s'investir, et ceci pourrait être tout simplement un discours relativement. Donc, il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre n'est pas simple si on veut que, effectivement, cette gestion de ressources humaines doit être un levier qui incite à de nouveaux comportements, et il faut y songer aussi. Ça fait partie d'un tout qui me paraît important. Alors, ça m'ennuierait beaucoup de rester dans... Je pense qu'effectivement, il y a des choses un peu nouvelles, un peu des contraintes nouvelles. Je dirais que naturellement, et dans mon caractère, j'ai tendance à dire que, tant mieux, ce sont finalement des opportunités nouvelles qui vont nous obliger peut-être à faire des choses qu'on n'a jamais fait, qui vont nous obliger à être un peu créatifs, tant mieux. Je pense que c'est quelque chose à regarder un peu en dehors du cadre, et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être positif. Voilà, pour l'essentiel, les conclusions telles que je les imaginais. Je voudrais maintenant, et c'est pour clôturer, remercier. On a déjà remercié un certain nombre de personnes ce matin. Moi, je voudrais remercier surtout toutes les personnes qui se sont mobilisées, et notamment au niveau des ateliers. Vous avez vu que, outre les personnes de la cellule exécutive de l'agence, on avait aussi toute une série, je dirais, des amis de l'agence qui étaient là aussi et qui travaillaient avec nous. Je les remercie. Et puis, parce que ça n'a pas été fait ce matin, ce type d'organisation est évidemment, nous paraît très important, c'est peut-être une des premières, mais je crois aussi, et en fonction notamment du feedback que vous nous donnerez, il est important, problème de gorge, il est très important, bien entendu, pour nous peut-être de continuer à avoir des activités et qu'on puisse se rencontrer, discuter, échanger, en dehors des évaluations, et je crois que c'est évidemment l'objet d'une journée comme celle-ci, mais c'est un travail énorme. Et je crois qu'il a été rendu possible en partie parce que notre cellule exécutive s'est un peu étoffée ces derniers temps, mais je tiens aussi à les remercier. C'est grâce à eux que ce travail a été réalisé, et je les remercie très vivement. Et merci à vous, un vendredi après-midi, d'être resté parmi nous. Et puis maintenant, je vous invite à la véritable dernière activité, mais qui est nettement plus ludique, amicale, qui est le verre de l'amitié.